BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech & Co Business. On va démarrer par la cybersécurité dans un instant avec le patron de WatchGuard Technologies. On va revenir un peu sur toutes les actus autour de la cyber et notamment retour sur l'affaire Lockbit. On pensait que lorsque les têtes du réseau avaient été arrêtées, eh bien non, le gang continue à opérer. On reviendra aussi, on va faire un petit débrief avec nos experts sur tout ce qui se passe dans la bataille Google, OpenAI, Microsoft, Meta autour de, évidemment, l'intelligence artificielle. On verra un peu quels sont les enjeux pour les entreprises. Et puis, deuxième partie d'émission, on va voir un sujet assez pointu sur la lutte contre la fraude dans le paiement. Et justement, il y a beaucoup de choses dans ce domaine, il y a beaucoup de choses dans le blanchiment. On va voir tout ça avec trois experts qui seront avec nous. Voilà, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Et on va parler cybersécurité avec notre premier invité, Pascal Ledigol. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur France de WatchGuard Technologies, alors que nos auditeurs, téléspectateurs connaissent certainement, éditeur américain spécialisé dans l'EDR, c'est tout ce qui est détection d'intrusion, mais aussi les réponses, hein, parce qu'il ne sait pas tout ce d'avoir détecté. Et puis, évidemment, il y a les consoles de livraison. Enfin, on en dira un mot. Ma première question, c'est, dans l'ambiance générale aujourd'hui, il y a évidemment les cyberattaques continues. Là, on vient de voir, il y a une news qui est tombée tout à l'heure, le FBI vient de fermer le Bridge Forum, qui est l'un des supermarchés, on va dire, où les cyberattaquants viennent chercher des produits, des services, tout un ensemble de choses. Le FBI vient de le fermer, mais bon, on imagine que ça va rebondir quelque part. Il y a l'affaire Lockbit, on y reviendra. Et puis, il y a tous ces enjeux géopolitiques, hein, évidemment, le Russie-Ukraine, le Moyen-Orient. Est-ce que vous sentez que il y a une vigilance plus forte, mais est-ce que les enjeux géopolitiques jouent aujourd'hui sur ces cybermenaces?
Pas tellement. WatchGuard, on est sur la PME, l'ETI. Oui. Ils sont très dans leur production, dans leur métier. Donc il y a une prise de conscience qui se fait dans le temps, progressivement, mm-hmm. mais pas assez vite, ou en tout cas pas aussi vite que l'évolution des menaces. Donc on passe notre temps justement à sensibiliser et essayer de faire.
Et les JO, ça peut être quelque chose que souvent, évidemment, on fait un gros coup de zoom sur la France avec les JO dans tous les domaines et en cyber notamment, et même là des entreprises. Parce qu'il peut y avoir des PME ETI qui, par rebond, travaillent avec les organismes et tout ça. Vous pensez que là, aujourd'hui, ça peut être un moment pour sensibiliser davantage en disant attention, on risque d'être un peu plus la cible
En tout cas, si c'est le cas, on ne l'a pas vu. Pas sur mon secteur. On voit effectivement les entreprises se sécurisent des plus.
Oui.
Les JO, c'est une thématique spécifique, mais une PME va vous répondre que pourquoi elle serait visée dans ce contexte-là, justement au contraire, elle se sent pas visée. C'est bien des sujets.
Alors justement, Pascal Ledigol, juste un mot justement sur WatchGuard Technology. Comment vous les accompagnez les entreprises aujourd'hui? Donc je l'ai dit, logiciel de détection d'intrusion et aussi de réponse à incidents. Ça veut dire quoi, voilà, pour ceux qui sont un peu moins spécialisés en cyber qui nous regardent?
Alors nous, on va faire la partie produit, produit de détection, produit de remédiation, donc EDR, firewall, MFA. Donc c'est notre métier de tous les jours, c'est pas de vente, c'est de faire comprendre à quoi ça sert et où est-ce que ça va servir en termes de protection. Ça auprès des clients, mais aussi auprès de nos revendeurs. On a un réseau de revente de nos produits, donc pour la PME, pour l'ETI. Et une grosse partie de notre temps, c'est sensibiliser sur la bonne configuration, sur le patch, sur toutes ces choses.
Est-ce que vous disiez, je reviens sur ce que vous disiez juste avant, aujourd'hui, les entreprises, parfois, elles se disent, pourquoi moi? Je fabrique des meubles dans un coin, je travaille avec quelques clients pour leur donner, je sais pas, du matériel agricole, pourquoi je serais attaqué, moi? C'est un peu contre ça que vous combattez aujourd'hui.
Malheureusement, oui, c'est encore le cas en 2024 et il y a qu'à voir de toute manière la presse quand il y a des choses qui se passent.
Oui.
Ils ont l'impression vraiment d'être eux dans leur coin et pas concernés par ça. Oui, on parle de Lockbit en Russie, etc. On parle de gros hôpitaux qui se font attaquer. On parle de Boeing qui s'est fait pirater. Mais du coup, le secteur de la PME qui hyper important en France,
oui.
Se sent un peu à côté de ça, en fait. Mm-hmm. Et c'est bien le sujet.
Ce qui va les
motiver, eux, c'est quand ils voient des confrères, oui, de leur même taille,
c'est ça,
qui se font attaquer.
C'est là où je trouve toujours, j'arrête pas de le dire, la communication est importante. Hein. J'ai en souvenir une PME en Bretagne qui fait des volets, des roulants, des portails, tout ça, qui a été attaqué. Mm. Et le témoignage qu'avait apporté la DG, parce que c'est une femme qui dirige cette entreprise familiale, hein, il y a quand même 700 personnes, ils vont 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc belle PME, mais qui ont été mises à l'arrêt il y a quelques années maintenant par ces virus, c'était important d'apporter son témoignage pour montrer aux autres, regardez, nous, on fait des volets, des roulants, des portails, et pourtant, on a failli pas mourir, mais heureusement que tout le monde s'est motivé, les clients, les fournisseurs, enfin que tout le monde a compris ce qui se passait. Alors, juste, on vous parlait de Lockbit à l'instant, donc c'est un groupe de ransomware, hein, Lockbit. Alors, on pensait à un moment, il y a eu des arrestations, alors voilà, avec coopération de la police internationale, on se dit, bon, on a coupé quelques têtes, mais finalement, on voit que c'est comme les hydres, hein, ça repousse de l'autre côté. Quelle est votre analyse là autour de ce genre d'affaires?
C'est pas la première fois que ça arrive. Ouais. Il y a eu d'autres cybergangs avant et c'est toujours un petit peu la même routine. C'est que on va faire tomber les infrastructures, on va aider les victimes, donc des choses qui sont très bien, mais on fait pas tomber les têtes.
Ouais.
Donc quand on fait pas tomber les têtes, j'ai coutume de dire le vendeur de drogue du coin, il va pas devenir boulanger. Oui. Là, c'est pareil.
Il va juste aller dans un autre endroit, redémarrer.
Et puis, en plus, on est sur un système qui est complètement industrialisé de la cybercriminalité, où on a un système d'affiliés. Mm-hmm. Et donc, un affilié qui va pas travailler avec un cybergang va travailler avec un autre.
Ouais.
Donc, de toute manière, ça bouge très vite. Il y en a qui sont à travailler plusieurs à la fois.
Ouais.
C'est
vraiment ce qu'il faut voir. Hein. C'est vraiment ce marché. On n'arrête pas d'en parler ici. Je parlais du cybermarché, la Bridge Forum. C'est on va acheter du produit, du service. Il y a même un retour client pour le cyberattaquant, c'est assez impressionnant.
Il y a un support au top.
La technique utilisée, là, si on revient un peu sur le botnet de Lockbit 3.0, c'est quoi exactement? De quoi doivent se méfier ceux qui se disent, là, peut-être qu'ils nous écoutent en se disant,
alors là,
ne concerne pas.
On en est à la 4.0 en vrai.
4.0, oui, c'est
parce
vrai,
que
c'est vrai,
je disais 3.0. Effectivement, il y a une campagne avec 3.0, mais mm-hmm. c'est le Lockbit s'est fait voler en fait son builder il y a quelques temps, et donc il y a d'autres pirates qui utilisent ce ransomware pour attaquer, alors que ce n'est pas Lockbit. Lockbit, lui, qui se débat avec les forces de l'ordre en ce moment, il en est à une version 4 évoluée. Donc, il fait ses attaques et d'ailleurs, ça redouble depuis pour montrer qu'il est toujours actif.
Alors, ça se passe comment ces attaques? C'est à partir de logiciels malveillants, hein, bien entendu.
Alors, lui, effectivement, il y a le logiciel malveillant, mais faut rentrer sur le réseau. Donc, pour rentrer sur le réseau, on va utiliser des choses qui sont classiques et connues depuis des années. C'est un logiciel non patché, c'est une vulnérabilité zéro day, une faille eventy, une faille dans un VPN qui n'est pas encore connue et qui va être exploitée.
Et là, il y a la sensibilisation, dire aux PME de s'équiper, mais pour dire d'être encore plus prudent, c'est quoi? C'est les mises à jour qu'il faut faire régulièrement?
Les mises à jour qui sont toujours pas aussi bien faites que ça, effectivement. Donc c'est de la sensibilisation au jour le jour de l'ensemble des acteurs. C'est pas que des clients aussi. Faut bien voir que dans la PME, de toute manière, ils n'ont pas la compétence cyber.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. C'est compliqué d'aller voir.
Donc en fait, ils se reposent sur des acteurs de confiance.
Mm-hmm.
Donc il faut aussi que ces acteurs de confiance aient les outils pour évangéliser sur ces sujets-là. Il faut aussi qu'ils arrivent à convaincre les entreprises de s'équiper, parce que c'est un budget, c'est du temps, et souvent c'est vu dans une PME comme un centre de coût et pas comme un investissement.
Et quand on voit des offres, là, il y a à ce même poste, il y a une semaine, il y avait Guillaume Poupard qui était là, le patron de Capos, ils sortent une offre. Voilà, packagé PME, c'est ce qu'il faut aussi, ce genre de choses. Alors, je sais pas, peut-être que vous y participez, je sais pas, mais en tout cas, ils vont l'élargir. Il y aura plusieurs produits.
Oui, ça participe d'offres packagées, parce qu'effectivement, l'erreur serait de se dire, je prends des produits, je mets ces produits et je suis protégé. En fait, en cybersécurité, on se bat contre des humains et il faut aussi des humains qui surveillent et qui participent. Donc, c'est un domaine qui est en constante évolution. On peut pas se contenter de dire, voilà, j'ai fait l'investissement une fois, je mets le produit. Je suis protégé. Ça ne fonctionne Hélas, pas comme ça.
Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Pascal Ledigueul. Je rappelle, vous êtes directeur France de WatchGuard Technologies. Voilà ce retour, et puis encore, c'est ce que vous dites, hein, c'est un travail de tous les jours, du quotidien, de sensibiliser à nouveau les, enfin, tout, encore et toujours, les utilisateurs, mais surtout les PME, leur dire que voilà, même si vous êtes, voilà, dans une région au loin, dans un métier qui n'est pas forcément un métier stratégique, eh bien, vous êtes une cible, hein, des ransomware, de vous faire voler vos données, et puis par rebond, peut-être d'attaquer d'autres entreprises. Merci d'être venu parler de tout ça. Allez, on va parler intelligence artificielle avec nos deux invités suivants. On va faire un petit débrief de tout ce qui se passe en ce moment dans l'intelligence artificielle.
BFM Business, Tech & Co Business, les invités.
Et on va faire un débrief sur tout ce qui se passe au moment dans l'intelligence artificielle. Alors vous suivez certainement dans Tech & Co la quotidienne, hein, tous les soirs 20h-21h30 avec François Sorel. Il y a beaucoup de débats d'experts. Je vous conseille évidemment d'aller retrouver tout cela en replay sur la plateforme BFM Business. Et puis nous on va essayer aussi de s'intéresser à ça, puis voir l'angle entreprise, un peu voir ce que ça peut changer pour les entreprises, l'impact de cette bataille Google AI, OpenAI, Microsoft, Meta. Enfin ils sont tous là, même Anthropic avec Amazon. On va en parler avec nos deux experts. Eric Campanini, bonjour Eric.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. Co-fondateur de Le Pont, qui est une école de formation, hein, data science, deep learning, IA, donc on est vraiment au cœur de ces sujets. Et Nicolas Godemet, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur de l'IA chez OnePoint. OnePoint, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3500 personnes, donc tout le métier du service de l'IA. Et on parle évidemment beaucoup de OnePoint en ce moment parce que, voilà, votre DG, PDG et fondateur David Layani, voilà, pousse en tout cas sur le dossier Atos, voilà ce qui serait un joli coup pour OnePoint. Et puis voilà, et puis il faut sauver Atos quand même, hein. Faut y penser quand même, c'est quand même 100 000 personnes derrière, des compétences, des brevets, beaucoup de métiers. Alors messieurs, on va parler IA. Évidemment, vous avez vu toutes les annonces. OpenAI nous annonce une nouvelle version, alors ChatGPT 4.0 ou 4.0 pour Omnimédia, parce qu'il y a de l'image et de la vidéo. Le lendemain, pouf, on a Google AI qui nous sort son toutes ces nouvelles annonces, alors AI Overview, Premium, Project Astra, Vio, donc un moteur de recherche alimenté par ou amélioré par l'IA. En France, on a Claude, hein, qui est le LLM de Anthropic, dans lequel Amazon, mais aussi Google, ont mis de l'argent. Apple, on attend un peu leur réponse. On a évidemment nos Français, nos Mistral, nos Lighton, nos Dust, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut penser un peu, Eric, de la bataille là, de ces géants? Est-ce que voilà, c'est vrai que lorsque OpenAI avait sorti ChatGPT, ça avait un peu rebattu les cartes. Parce qu'on se dit, oh, Google est loin devant. Et OpenAI, Microsoft sont derrière. Et puis, voilà, il y a eu. Microsoft est revenu un peu au devant de la scène grâce à OpenAI.
Quelle fanfaronnade!
Oui.
Mais quelle fanfaronnade! On a eu, vous avez couvert tous ces sujets-là en 2023, on a eu des vraies avancées technologiques. Des vraies avancées technologiques. Là, en deux jours, il y a une sorte de compétition marketing qui s'est mise en place. Mm-hmm. Et ça montre pour moi qu'en fait, on est presque arrivé à une sorte de plateau aujourd'hui, d'un point de vue technologique. Et les solutions qui ont les plus avancées, tu citais Mistral tout à l'heure, ça peut être Meta, etc. Mais finalement, d'un point de vue technologique, on arrive un peu à un seuil. Et là, il y a une sorte de surenchère qui cache pour moi deux choses. La première, c'est qu'il y a un énorme besoin de trouver de nouveaux utilisateurs. C'est quand même étonnant que la nouvelle version que tu as citée là est gratuite aujourd'hui, que dans le modèle OpenAI, c'est quand même assez nouveau par rapport à la stratégie qu'ils avaient.
Je pense que le 5 arrive. Donc
le 5 devrait arriver, c'est peut-être une prochaine avancée technologique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on développe de nouveaux services, mais qui sont dans une logique très... pour rendre beaucoup plus empathique, beaucoup plus sympathique l'intelligence artificielle, et qui masque peut-être aussi un enjeu de vigilance pour nous et pour les entreprises. On en parlera tout à l'heure.
Ah oui. Nicolas.
Alors moi je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a une énorme bataille de communication, et d'ailleurs c'est drôle de voir que OpenAI a probablement eu quelques idées de ce qu'allait annoncer Google, puisque Google a annoncé Gemini Live, qui est un modèle donc multimodal en temps réel sur de l'audio et de la vidéo. Il y a eu une belle démonstration d'ailleurs de mais qui n'était pas en temps réel pour le coup de Google.
Et le soir d'avant,
OpenAI annonce la même chose, sauf que là il y a une vraie démo en live avec GPT-4o, assez impressionnante,
et autant de mise en contexte, un peu d'humour,
voilà, et donc capacité à observer en temps réel une vidéo vidéo et à entendre en temps réel ce qui se passe, y compris donc le texte bien sûr, mais y compris les signaux non verbaux, c'est-à-dire les émotions véhiculées par les voix. Donc et donc là, je nuancerai un tout petit peu ce que dit Eric. Donc certes, d'un point de vue intelligence, il n'y a pas énormément de surplus d'intelligence dans GPT-4o par rapport à GPT-4 Turbo sur les benchmarks. Mais en revanche, le côté capacité à traiter en temps réel de l'audio et du vrai son, c'est-à-dire pas de la transcription de texte comme c'était le cas jusqu'à ce présent, et ce qui est le cas dans Gemini Pro qui était un peu le concurrent multimodal de Google, ça, moi, je trouve que d'un point de vue technique, c'est quand même une avancée qui est sympa. Et ils ont insisté, alors là, complètement d'accord avec Eric, ils sont vraiment dans une bataille d'accessibilité pour gonfler l'usage. Parce que c'est vrai qu'il y a un plateau d'utilisation de ChatGPT, ils sont à 180 millions d'utilisateurs par mois.
On oublie parfois, mais Google, on utilise tous Google, on n'utilise pas encore tous ChatGPT.
Voilà, et d'où les discussions avec Apple qui sont très intéressantes, parce que ça peut être un énorme coup d'accélérateur sur ChatGPT si il y avait un accord.
Entre, pour l'instant, c'est un rumeur, Apple,
c'est une rumeur. Mais donc, ils ont beaucoup insisté effectivement sur cette notion d'accessibilité, d'expérience utilisateur, etc. D'ailleurs, c'était même drôle parce qu'ils ont dit on va avoir un client ChatGPT sur le Mac. Nous, ça fait 6 mois qu'on a un client Neo sur les Macintosh, donc enfin sur les Mac Pro ou les PC. Donc ça, c'était assez drôle, mais ils ont incité là-dessus. Mais ils ont quand même dit on s'est concentré sur l'UX aujourd'hui. On vous a pas parlé de la nouvelle frontière, mais elle arrive. Donc GPT-5, quand même, je pense, c'est pas très loin. Mm-hmm.
Il a annoncé. Ça veut dire quoi là, je vais poser la question à tous les deux. Démarrer avec Eric pour les entreprises, parce que pour les entreprises, ce qui est compliqué, c'est on lance des projets et puis ça y est, une nouvelle version qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête l'autre? Est-ce qu'on prolonge? Est-ce que ou finalement, on se dit, allez, j'avancerai avec les technologies, je fais des ROI beaucoup plus courts. Comment on se débrouille aujourd'hui,
Eric? En fait, il y a deux choses à avoir en tête. La première, c'est que le sujet n'est plus technologique. Oui. Les différentes solutions, et je pense que tu commenteras, Nicolas, sont à peu près équivalentes, peu ou prou. Mm-hmm. Je ne crois pas à une entreprise qui choisisse une seule et même solution.
Oui, c'est
peut-être
ce qu'on
Néo, mais en tout cas plusieurs. Mm-hmm. En tout cas, le premier point, c'est que ce n'est pas technologique. Ce que disent les entreprises aujourd'hui, c'est que le principal frein au déploiement de l'intelligence artificielle, il n'est pas technologique, il n'est pas financier, il est essentiellement humain. Ouais. Et donc, il y a un énorme enjeu de développement de compétences dans les entreprises qui aujourd'hui sont, il faut bien le dire, un peu à la traîne. Mm-hmm. Si on regarde, je parlais de Fanfarona tout à l'heure, côté éditeur, c'est vrai que côté entreprise, on est un peu aussi dans des effets de manche. Et si tu me permets de façon un peu triviale, l'IA dans l'entreprise, c'est un peu comme le sexe chez les ados, tu connais cette expression-là. Beaucoup en parlent, peu en font véritablement à l'échelle de l'entreprise. Et c'est ça l'enjeu. Il y a des études intéressantes. Je regarde en Allemagne, par exemple, il n'y a que 30%, un tiers des entreprises qui disent utiliser de l'intelligence artificielle.
Il faut qu'elles trouvent déjà le bon cas d'usage. Qui va vraiment. Et moi, souvent, je dis, il ne faut pas oublier le COMEX, parce que le COMEX, lui dire j'ai un Teams, je vais améliorer un peu tout ça, lui, il trouve ça bien, mais le jour où on lui dit que je vais vraiment améliorer la relation client, etc., là, ça va l'intéresser.
Oui, c'est difficile d'être dans un COMEX aujourd'hui, de dire je ne comprends pas grand-chose à la partie IA, et je préfère à ce moment-là avoir une relation de recul. Il y a une étude intéressante qui a été publiée là, en mars dernier, aux États-Unis, par l'agence gouvernementale Census Bureau, qui dit que seulement 5,4% des entreprises américaines utilisent vraiment de l'intelligence artificielle. Donc on est encore assez loin par rapport à cette surexcitation qu'il y a par ailleurs.
Et Nicolas, c'est ce que tu remarques aussi avec OnePlot. Alors on rappelle, tu as rapidement cité Neo. Neo, c'est un copilote développé par OnePoint qui propose en interne pour OnePoint, mais finalement proposé aussi à d'autres.
Et pour nos clients qu'on déploie chez des clients. Et donc ce qui est intéressant chez Neo, c'est que justement, on est agnostique d'une certaine manière, parce qu'on peut l'installer aussi bien chez Azure en utilisant les technologies, les modèles disponibles donc d'Azure OpenAI ou de Mistral Large par exemple. On peut très bien l'installer chez AWS en utilisant les modèles disponibles donc plutôt du Claude 3, ou l'installer chez Google en utilisant la suite des modèles de Google, donc les Gemini.
Et par rapport à ce que dit Eric là, donc sur cette maturité des entreprises.
Oui, donc il y a évidemment un énorme enjeu humain d'accompagnement au changement. Donc nous, on a une grosse activité autour de cet accompagnement au changement et aussi de formation, donc tout à fait d'accord. Il y a aussi un petit enjeu technique qui n'est pas forcément celui d'avoir le meilleur modèle, parce que comme je viens de le dire...
Ou les meilleures puces, parce que ça aussi c'est un...
Oui, mais d'une certaine manière, dans chaque cloud provider, et même je pense demain dans Scaleway on aura du Mistral, etc. Donc dans chaque cloud provider, on va avoir des modèles qui sont assez puissants. Mm-hmm. Donc voilà, si on a fait le choix d'un cloud provider, il y aura des modèles qui vont répondre à la plupart des cas d'usage. Donc, je suis pas très inquiet de ce point de vue-là. La complexité technique, pour passer à l'échelle et pour industrialiser des cas d'usage, ben, c'est de bien se brancher dans les systèmes d'information qui sont souvent legacy dans les entreprises, avec des critères, des contraintes de sécurité qui sont majeures. Et donc, nous, c'est là-dessus qu'on passe aussi beaucoup de temps.
C'est cas d'usage, l'intégration et trouver, avoir son bon périmètre de data.
C'est ça. Il faut que la data soit disponible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui disent, non, mais la data, c'est bon, on maîtrise. Alors que pas du tout. Mm-hmm. Et si j'ai pas de data, de toute façon, je peux pas faire d'IA, quelle que soit la puissance du modèle.
Nicolas.
Ah bah, complètement d'accord. Alors après, une nouveauté quand même dans l'IA générative, c'est que d'une certaine manière, les données, c'est des documents, donc c'est assez facile de brancher des documents. Sous réserve que pour brancher correctement des documents de façon sécurisée, il faut que les droits d'accès soient propres, c'est-à-dire qu'il faut que quand quelqu'un quitte la direction financière, il n'ait plus accès aux documents financiers, et c'est pas toujours toujours mis
les droits d'accès sont pas toujours mis à jour.
Donc il y a des questions de gouvernance documentaire et de gouvernance de la sécurité qui sont majeures et sur lesquelles on accompagne aussi beaucoup nos clients. Donc cette question d'intégration des meilleurs modèles dans les plateformes techniques des entreprises, c'est ça qui est compliqué et qui fait que le passage à l'échelle prend du temps.
Et ce que j'avais vu, c'était dans une banque, ils avaient mis toutes leurs données RH en se disant, bah tiens, je vais chercher un profil, c'est super pour chaque manager qui cherche un profil dans l'ensemble de la banque. En fait, il y avait, alors sans associer un nom à un salaire, on pouvait très vite avec un prompt un peu bien fait dire, tiens, j'ai 8 ans d'expérience, voilà un peu mon parcours, tout ça, dans la grille de salaire je me situe où, et ça avait été, et tout le monde s'était amusé à ça, et évidemment on voit, et ça revient à ce que tu dis sur la partie accès. Je disais l'importance aussi du COMEX aussi pour prendre les décisions, c'est lui qui doit choisir aussi, je sais pas, Nicolas, qui doit être
toute l'entreprise.
Parce qu'on des proof of concept, on peut en avoir une centaine.
Non, mais toute l'entreprise doit être impliquée. Le rôle du COMEX est très important et on voit de plus en plus de COMEX qui se dotent. Chez OnePoint, on a été parmi les pionniers à avoir cette fonction de Chief AI Officer au comité exécutif de OnePoint que j'incarne. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui nomment des patrons, soit de l'IA, soit de la data et de l'IA, ou de l'IA et de la data et de l'IA et de l'accélération digitale dans certaines entreprises. Donc, on le voit. Et ce qui est clé, c'est effectivement d'avoir au niveau du COMEX quelqu'un qui est capable de fédérer et d'embarquer un peu l'ensemble des équipes, de suivre l'innovation, parce qu'on voit que c'est un rythme effréné, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de plein d'équipes qui se battent sur les mêmes projets. Parce que moi, ce que je trouve assez frappant, c'est que dans les entreprises, il y a aussi un gars qui s'est mis à coder dans son coin dans une équipe métier, parce que finalement, on peut avoir accès à des modèles.
Ne serait-ce que chez Google, DeepMind et Google
Exactement. Responsabiliser une équipe pour dire, voilà, ce cas d'usage, tu le fais, etc. Et pas qu'il y ait des batailles internes, ça aussi, c'est une complexité dans les grandes organisations.
Il faut cet aiguillon-là que Nicolas vient de citer. Il faut aussi se dire que ces solutions d'IA générative sont finalement très simples à utiliser. Ce qui est un inconvénient sur les questions de sécurité, tu l'as dit, qui est aussi un avantage, et il y a un vrai enjeu de responsabilisation, tu disais un terme anglais un peu galvaudé, d'empowerment, en tout cas des équipes, et de leur faire confiance sur leur propre capacité à se dire où sont les cas d'usage. Et pour ça, il faut, un, lever les freins. Je rappelle qu'il y a une étude du BCG que vous avez partagée il y a quelques semaines qui dit que 31% des Français sont faits assez frileux sur ces sujets-là par rapport à 15% en moyenne. Donc on a un vrai sujet en France, on le trouve aussi à l'international. Donc lever les freins et ensuite donner les moyens d'eux. Nous, on a une approche par rapport à nos clients, qu'on parle d'AI fitness. Oui. Un peu comme quand tu fais du sport. Se mettre au sport, c'est difficile. Une fois qu'on y est, c'est OK. Par contre, il faut l'entretenir. Sinon, on perd très vite les compétences derrière.
Il y a ce côté
une manière nouvelle d'aborder les compétences et le développement des compétences de ces équipes pour leur donner les moyens de choisir. Si on reste complètement centralisé sur les cas d'usage, le déploiement ne se fera jamais.
Oui. Non, mais je suis d'accord avec ça. Et ce côté incrémental, c'est-à-dire il faut vraiment nourrir au quotidien. Et c'est vrai que le côté sport, c'est exactement ça. C'est bien de s'inscrire à la salle, c'est bien d'y aller une fois. Maintenant, faut y aller toutes les semaines. Pour se maintenir en forme. Faut avoir un coach qui vient régulièrement de recorriger des gestes ou des mouvements, des choses comme ça. Ouais. Et ça, c'est un peu. Il faut pas aller voir trois coachs, quoi, parce que c'est ça le souci, Nicolas.
Oui, tout à fait. Et du coup, il y a un sujet qui est très connexe au rôle des comités exécutifs, c'est le sujet de la shadow AI, c'est-à-dire le fait que des collaborateurs utilisent des outils de marché qui sont disponibles, comme ChatGPT, comme Midjourney et autres, mais qui ne sont pas sécurisés et donc qui posent des problèmes majeurs aux entreprises. Les chiffres que m'a donné OpenAI, je discute souvent avec eux, c'est il y a peut-être 15%, 20% d'une entreprise donnée où les gens se sont créés des comptes sur ChatGPT. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un usage qui est assez massif au sein des employés, mais qui n'a pas le niveau de sécurité des entreprises. Donc là où le rôle d'un COMEX est clé, c'est de dire il faut qu'on s'équipe d'un assistant d'IA interne, il faut qu'on le fasse nous-mêmes ou qu'on prenne un outil de marché. Et c'est pour ça que nous, on a déployé Neo, c'est ce qu'on a fait en interne. Et on a beaucoup de clients qui nous demandent de déployer Neo chez eux, justement, pour répondre à cette problématique de Shadow AI qui n'est pas sécurisé.
Après, tu as une vraie limite aussi dans la capacité des entreprises à considérer le ROI de ce type de solution.
Oui.
C'est-à-dire qu'on applique les modèles, on a tous été très séduits par ça. On va pouvoir réduire les effectifs, optimiser les process, etc. Je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire qui n'est pas fait aujourd'hui suffisamment, de se dire comment est-ce que je mesure l'impact.
Ou alors sur des ROI assez courts.
Ou sur des ROI assez courts. Et derrière, l'idée, ce serait de se dire, OK, j'ai quatre piliers, en fait. J'ai un pilier business, d'un point de vue ROI business, mais j'ai aussi un enjeu social, sociétal et environnemental à prendre en compte pour avoir une vision vraiment 360, et les entreprises se cherchent encore dans ce domaine-là.
Là, le côté passage à l'échelle, si on devait mettre en pourcentage, c'est quoi? C'est 10-15% des entreprises qui passent à l'échelle.
Oui, c'est un bon ordre de grandeur. Et les niveaux de maturité dans les entreprises sont assez variables, mais je pense que c'est un bon ordre de grandeur. Je voulais juste rebondir sur la question du ROI qui est effectivement majeur. Et nous, on arrive assez bien à mesurer des ROI, et la question c'est plutôt comment on les concrétise, parce que le ROI, les gains que vous allez faire, ça va être des gains de temps sur des tâches. Donc ça veut dire sur une journée d'un collaborateur, vous avez, quand il doit faire par exemple un compte rendu d'entretien RH ou une analyse de contrat ou un compte rendu de réunion, cette tâche là va être vraiment accélérée parce que dans Neo on peut le faire. En revanche, la durée de la réunion, elle va pas diminuer. Donc sur le temps d'un collaborateur, nous on a mesuré des retours sur investissement en termes de gains de temps qui sont de l'ordre de 15%, mais pour matérialiser ces 15% en valeur, la question c'est comment on fait
et du coup à l'échelle,
et comment on la décline à l'échelle. Et du coup la question derrière c'est les améliorations dans les process, ce qu'on appelle les target operating models des entreprises, pour se dire j'ai ce gain de temps potentiel sur l'ensemble de mes équipes, sur mon métier du marketing par exemple, comment je change le target operating model, les process opérationnels de mes équipes métier marketing pour matérialiser ce gain de temps et le réaliser sur des choses qui ont plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est ça la question.
Ça
dépasse effectivement l'enjeu purement technologique, tu as raison sur l'operating model, et il y a un troisième pilier qui est à prendre en compte, ce qui est la régulation de l'IA au travail.
Oui.
C'est essentiel, on en a avancé avec l'AI Act, très bien, mais les entreprises ont une vraie responsabilité au sein de l'entreprise et dans l'écosystème, avec les partenaires, les fournisseurs, etc., à se dire quelles sont les règles du jeu qu'on veut se donner d'un point de vue régulation.
Après, peut-être qu'elles l'ont un peu au niveau, pour ceux qui ont une certaine hygiène de la data, ils ont déjà été un peu...
Il y a un premier niveau, mais il y a le risque de... Le point de vigilance que j'évoquais tout à l'heure, il y a des travaux très intéressants qui sont faits par l'OCDE, par le Bureau international du travail, par un think tank comme hashtag le plus important. On va organiser en septembre un colloque international sur le sujet. Prise de conscience, il faut être très vigilant. Il faut arriver à trouver un mode de régulation qui protège les salariés d'un côté et qui ne limite pas le potentiel de business de l'autre.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Donc, on voit de cette actu technologique dont on parle beaucoup dans Tech & Co. Là, nous, on s'est vraiment branché sur le côté entreprise. Donc, il y a l'aspect technologique qui est important avec la puissance de calcul derrière, la data, les SLM, les LLM, voir un peu par cas d'usage vers qui se tourner. Et on peut, comme le disait Nicolas, mais comme tu le penses aussi, Eric, on peut avoir du Mistral. On peut avoir plusieurs solutions selon ces un ou deux cloud providers que l'on a. Mais surtout, derrière, c'est compétence, de la gouvernance de la data et puis quand même calculer un peu combien ça va coûter, parce que je pense que on va y venir beaucoup en 2025 sur ce coût, sur la partie green aussi, parce que
environnemental et massif.
Ça consomme. Merci à tous les deux, Eric Campanini, cofondateur de Le Pont, et Nicolas Gonnemet, directeur de l'IA chez OnePoint. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de lutte contre la fraude au paiement, on va parler de blanchiment, et on va certainement, et je vous en garantis déjà, parler d'intelligence artificielle aussi dans ce domaine. C'est tout de suite.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Voilà, un sujet dont on ne parle pas suffisamment souvent dans Tech & Co Business, la lutte contre la fraude au paiement. On va voir, ça a des liens vers le blanchiment. On va parler d'intelligence artificielle avec nos invités. Je vous les présente. Laure Littler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Honey Trust. Alors, c'est une filiale du groupe Honey.
Tout à fait.
O-N-E-Y. Voilà, si vous cherchez, si vous nous écoutez en radio, lutte contre la fraude et le profilage digital. À vos côtés, Brice Perdry, bonjour.
Bonjour.
Brice, merci d'être avec nous. Président d'Avansync, qui protège les transactions de paiement bancaire. Vous êtes dans la data liée à la lutte contre la fraude. Et avec nous également Florent Robert, bonjour.
Bonjour.
Florent, merci d'être avec nous, cofondateur d'Endorse. C'est une plateforme d'identification, de vérification sur la conformité d'un client, d'un fournisseur, pour aider aussi les entreprises à répondre aux obligations légales. Et on en est là aujourd'hui parce que... alors, je ne sais plus qui m'avait envoyé quelques chiffres. Je crois que c'était Florent. La fraude au paiement, c'est moins 4% en 2022 en France, malgré le fait qu'on paye de plus en plus la croissance des flux. C'est quand même 1,2 milliard de préjudice hein, pour les commerçants, les banquiers. Mais il y a quand même une légère baisse. Donc ça veut dire, heureusement, on est sur le bon chemin.
Oui, exactement. Moi, je pense que aujourd'hui, la fraude au paiement, c'est toujours un sujet très important. 1,2 milliard, 1,4 milliard.
Ça pèse quand même, oui.
Ça pèse. Mais je pense que...
Sans compter le préjudice moral pour les gens qui se font avoir et tout ça. Enfin, on compte pas assez suffisamment ça. Ou les gens hésitent après à revenir sur un site. Enfin, y a ces
exactement,
aussi.
C'est un problème important. Néanmoins, on voit que c'est en baisse. On a les nouveaux moyens de paiement. On a de plus en plus, aujourd'hui, de nouvelles technologies dans les paiements qui arrive, je pense que vous pourrez élaborer là-dessus, mais effectivement c'est en baisse et je pense que à terme on peut imaginer que c'est un problème qu'on va pouvoir complètement régler. Mm-hmm. Aujourd'hui, honnêtement, avec on parlera aussi d'IA
à terme, c'est quoi, c'est dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans?
Moi, je pense que sur les 10 prochaines années, ah, oui, les paiements par carte bancaire sur Internet ne seront vierges de toute fraude.
Donc on n'aura plus besoin de vous, Brice Perdry.
Oui, alors moi je vais un peu tempérer l'ambition, mais non, c'est vrai que le constat, c'est qu'aujourd'hui, on est globalement assez satisfait de ce qui est mis en place, puisqu'on voit effectivement l'augmentation des paiements, un chiffre de fraude contenu. Je pense qu'on est plus dans une optique de réussir à contenir la fraude que réussir à l'éliminer, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que...
Ça, c'est vous, 60 milliards d'euros analysés chaque jour en temps réel dans 170 pays, c'est ce qui est...
Oui, alors ça, c'est le footprint que nous, on a avec nos technologies. Voilà. Hein. Mm-hmm. Nous, effectivement, en quelques mots, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur chaque demande de paiement analyser en temps réel la transaction et recommander de l'autoriser ou de la refuser. D'accord. En fonction du risque de fraude. Donc, on voit passer les paiements et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à contrôler la fraude. Néanmoins, il y a aussi une inventivité, une professionnalisation des fraudeurs.
Aux pirates, oui,
et on est quand même dans une course un petit peu du... c'est une course à l'échalote quand même. Nous, on se professionnalise, eux aussi.
Mais on a l'impression que par rapport... On a discuté tout à l'heure, en tout début d'émission, avec un spécialiste, alors là, de la cyber pure et dure. Dans la cyber, on a l'impression que les pirates ont toujours un coup d'avance. Là, de ce que vous dites, Brice ou Florent, c'est plutôt les industriels qui ont ce coup d'avance par rapport aux pirates, même s'ils ne manquent pas d'imagination, comme vous le dites.
Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des tentatives de fraude sont bloquées. Mm-hmm. On arrive avec des technologies temps réel à mitiger la fraude. Il reste quand même 1,2 milliard, hein, tu l'évoquais, c'est quand même pas un énorme montant. Aujourd'hui, pour les banques, c'est vrai que c'est aussi un sujet plus d'expérience client. Comment aussi permettre à ses clients de ne pas trop les gêner lorsqu'il y a des doutes. Donc c'est pour ça qu'on parle de gestion du risque fraude, pas uniquement d'arrêter les fraudes, hein, parce que pour ne plus avoir de fraude, il suffit de bloquer tous les paiements.
Oui, après tout, voilà. Là-dessus, on sera tranquille. Laure Littler, votre donc de Honey Trust, que font les banques justement pour analyser un peu les données de paiement? Qu'est-ce qu'elles font de plus? Alors, je parlais d'IA, on va y venir dans un instant, mais pas seulement.
Alors, ce qu'il faut quand même bien se dire aussi, c'est que on parlait de l'inventivité des fraudeurs. Clairement, les fraudeurs, ils sont fraudeurs à temps plein, hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous, on trouve des outils pour effectivement les contrer, ils vont ailleurs. Et ce qui est quand même très important, je pense, de se dire là sur la fraude au paiement, c'est que certes, elle a fortement baissé, notamment sur les paiements sur Internet. Hein, on dit qu'on a quand même un tiers de fraude en moins sur paiement sur Internet. Mmh. Par contre, elle s'est déportée et on parle aujourd'hui de fraude au retour et de fraude au remboursement, qui sont une vraie plaie pour notamment les commerçants qui ont plus du mal à les suivre et à les chiffrer. Hein. Donc je pense qu'il y a toute une partie qui manque aussi dans les chiffres qu'on a de la fraude.
Oui, on parlait du paiement.
Exactement.
Hein, l'engagement.
Et en fait, il y a réellement un déplacement en fait, hein, de cette fraude sur d'autres. On parle de Contact Cover. Enfin voilà, il y a vraiment d'autres outils. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait et ce qu'on doit faire, c'est on va parler d'IA effectivement, mais au-delà de l'IA, l'important c'est de bien être capable de comprendre quels sont les modes opératoires. Et pour comprendre les modes opératoires, il faut être là où sont les fraudeurs. Donc il faut avoir des équipes qui sont sur le dark web, sur les messageries Telegram, etc. et qui voient les modes opératoires. Aujourd'hui on parle de fraude as a service, hein, les fraudeurs, mm-hmm. ils market oui. les modes opératoires de fraude. Monsieur tout le monde peut être fraudeur.
Ils ont eu un service client derrière.
Exactement.
On peut même noter son
et c'est super bien marketé. Ils ont des belles brochures. Enfin, c'est, voilà. Et ça, c'est vraiment le... Pour moi, c'est la base. C'est l'humain, en fait.
Ça rejoint le métier d'Endorse qui va venir un peu certifier un peu tout ça, non?
Exactement. Nous, on lutte contre le blanchiment d'argent mm-hmm. et le financement du terrorisme. Pour ça, on a créé un logiciel qui permet à des banques mais aussi des sociétés de paiement qui équipent des commerçants, de mieux connaître leurs clients et de le faire le plus efficacement possible, avec le plus d'automatisation possible.
C'est-à-dire, juste pour comprendre, ça se passait comment? Moi, je suis un banquier, je vais m'adresser à Endorse, ou je suis un e-commerçant, ça peut être qui l'interlocuteur d'Endorse?
Nous, on équipe typiquement la société de paiement mm-hmm. qui va venir vous fournir un moyen de paiement à vous, commerçants, pour proposer et vendre vos services.
D'accord.
D'accord. Donc nous, typiquement, on va vendre à une société qui édite des terminaux de paiement qui vont être utilisés derrière par les taxis parisiens pour pouvoir payer votre course par D'accord. carte bancaire.
Et vous allez garantir un peu
Nous, on va aller vérifier que la société de chauffeur de taxi est une véritable société de chauffeur de taxi, qu'elle déclare bien, qu'elle est en conformité avec toutes ses obligations en tant que société, afin de certifier à la société de paiement qu'elle connaît bien son client voilà. et qu'elle ne favorise pas, in fine, du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme.
Parce que souvent, ça, évidemment, tout ce genre de fonds illégaux s'orientent évidemment souvent vers toutes ces activités illégales. Brice Perdry sur Advancing, comment vous luttez-vous contre ce blanchiment? Donc les technologies, c'est quoi? On disait tout à l'heure, c'est l'analyse de flux, c'est mettre... On le voit tous maintenant, quand on veut payer, on nous demande de renvoyer un code, d'aller vérifier sur notre adresse mail. En plus, on peut choisir. On n'est pas obligé de faire le même process à chaque fois.
Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, effectivement, on parle de parcours client dans le paiement. Il y a tout un lot de stratégies, d'outils qui permettent de faire différentes vérifications. Nous, on va être un peu le dernier rempart, ce qu'on va appeler l'analyse comportementale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vérifié que le code était bon, qu'il n'y a pas des risques de blanchiment, etc., qui ont été validés, est-ce que, à travers différents signaux faibles qu'on va avoir par rapport à l'ensemble des transactions qu'on voit passer, on va avoir confiance sur le fait que ce paiement soit bien compatible, conforme, comme d'habitude, par rapport au client? Mm-hmm. Et est-ce qu'on ne voit pas, à l'opposé, des signaux faibles de risque de fraude ou de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme?
Ça va être quoi les signaux faibles? C'est on voit justement des gens qui disent, enfin des alertes en disant voilà, non, j'ai pas payé ça, et donc ça c'est un petit signal ouais. faible. Et on va voir où est-ce que au niveau technologique vous êtes capable de voir des process différents.
Alors on peut pas trop rentrer dans le détail ouais. des signaux faibles qui sont surveillés par nos clients, mais l'idée nous c'est de leur donner la capacité à aller vraiment profondément dans toutes les données disponibles, chercher des signaux faibles très caractéristiques et être capable, classiquement, de voir que vous n'avez jamais acheté des cigarettes dans un bureau de tabac. Oui, d'un coup, vous avez des achats d'accord. significatifs, il y a une anomalie et c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé sur des cas de fraude.
Mmh. Voilà. Il y a certains signaux faibles sur lesquels on peut communiquer. Aujourd'hui, on a les autorités qui recommandent aux établissements financiers de mettre en place un certain nombre de règles.
Tout à fait.
Oui. De surveillance.
Qui peuvent être comme celle-ci, très exactement, basique, de dire il n'achète jamais à l'étranger, s'il y a un achat à l'étranger...
Ça, c'est vraiment le cas classique, ça va être un flux, des flux vers l'étranger. Alors ça, mm-hmm. généralement, on surveille des montants importants, des montants oui. inhabituels. De même, quand on processe des paiements ou des flux importants pour des sociétés, c'est aussi là où il y a beaucoup de blanchiment, mm-hmm. c'est en utilisant des personnes morales qui permettent de transporter beaucoup plus de fonds. On va étudier la cohérence générale entre ce que la société déclare et ce qu'on observe comme transaction ou ce qu'on voit effectivement de la société sur Internet. Mmh. Donc typiquement, on a une société qui se présente comme un commerçant qui vend des fleurs. On va vouloir analyser si réellement son site web est un site web commerçant qui oui. vend des fleurs. On peut avoir... Donc tout ça, tous ces signaux faibles, généralement, se regroupe autour d'une grande catégorie qui est l'analyse de la cohérence générale des données que j'ai pu acquérir autour de mon client, de ce que je connais de lui et de ses transactions.
Lurk Hitler, quelles sont les technologies justement les plus efficaces pour lutter contre les fraudes?
Alors en fait, à la base de beaucoup des fraudes, on a ce qu'on appelle des identités synthétiques. C'est-à-dire que le fraudeur, première chose qu'il va faire, c'est créer une identité forgée à partir d'informations vraies, de vraies personnes et de fausses informations. Et à partir de cette identité synthétique, il va pouvoir perpétrer ses méfaits, quels qu'ils soient. Et donc, une des façons, on va dire, d'identifier ça à partir justement de données qui ne sont pas forcément les données, on va dire, comportementales classiques, ça va être d'aller vraiment analyser ces données d'identité, email, téléphone, etc. Et c'est ce qu'on fait chez Honeytrust. Et d'aller regarder ces données d'identité, de dire, est-ce que il y a quelque chose derrière ces données ou pas. Et donc, on va aller regarder un email, et on va aller regarder cet email, et on va l'analyser selon plein d'autres données tierces, donc externes, pour le coup, qu'on va aller chercher. On va dire, est-ce que cet email est présent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il a été écrit récemment ou il y a longtemps? Pareil avec le téléphone. On va croiser toutes ces données, ça peut être voire 200, 300 données, à partir juste des 5 données de base d'identité, et on va dire quelle est la probabilité que ce soit une vraie personne derrière cette identité ou une fausse. Et ça vient effectivement rajouter une information supplémentaire aux informations transactionnelles, etc., qu'on va avoir dans tous les flux, pour dire, bon, bah là, on a vraiment un risque qu'on identifie, et donc, il faut prendre des mesures.
Et c'est là où l'intelligence artificielle entre en ligne de compte, parce que là, évidemment, elle est... Alors, vous l'utilisez depuis pas mal d'années, et j'imagine que pour les développeurs, avec l'IA générative, voilà, ça ouvre d'autres perspectives, Lurk Hitler.
Complètement. Alors, l'IA générative, alors vous me direz ce que vous en pensez, mais à court terme, je ne pense pas que ce soit l'IA générative qui va faire des grandes avancées sur ces sujets. Par contre, très clairement, on doit analyser des grands volumes de données, détecter des anomalies. C'est le principe de ce qu'on fait dans notre métier. Si j'ai une anomalie, qu'elle soit positive ou négative, on va les regarder. Et s'il y a une anomalie, ça veut dire qu'il se passe forcément quelque chose. Oui. Et donc, évidemment, pour ça, l'intelligence artificielle nous permet, au-delà des règles qui étaient traditionnellement ce qu'on faisait, d'aller dire, là...
Ça, vous l'aviez déjà.
Voilà, je n'ai pas besoin de poser la question... Oui. L'IA va me dire, là, il y a quelque chose d'anormal, sans que j'ai forcément posé la bonne question. Oui, c'est vraiment ça la force, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, c'est ce qu'on, nos solutions utilisent l'intelligence artificielle, forcément.
Bruce Perdich.
Oui, tout à fait. Nous, ça fait 35 ans qu'on vient du monde de la recherche et l'innovation dans l'intelligence artificielle, et c'est vrai qu'au-delà des règles, au-delà de la vérification d'identité, ce qu'on a vu arriver, c'est, notamment grâce à la GenAI, une professionnalisation des fraudes, où des fraudeurs ne vont pas simplement créer des identités synthétiques, mais ils vont réussir réellement à se faire passer pour un site de e-commerce, à se faire passer pour un faux conseiller bancaire. Voilà, le cas classique qu'on a vu arriver.
Histoire de voix et tout ça, c'est là
exactement,
où...
Exactement. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, la GenAI, ça a été un outil plutôt dans l'arsenal du fraudeur pour faire de l'usurpation d'identité, pour faire ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale et pour vraiment que la personne ait confiance et que d'elle-même, elle donne l'ensemble de ses informations bancaires. Et c'est là où nous, les techniques d'analyse comportementale, donc vraiment des techniques d'IA, mais qui sont centrées sur est-ce qu'il y a une anomalie de comportement pour moi, en tant que banque qui connaît mon client, on arrive tout de même à mitiger ce risque.
Oui, à repérer ça. Florent Robert, sur l'utilisation justement de cette IA, et puis voilà, la nouvelle génération IA générative qui arrive aujourd'hui.
Putain, j'abonde avec votre discours. L'IA, c'est un... Dans notre domaine, ça fait à peu près 10 ans que c'est utilisé. Il y avait le machine learning qui a été longtemps la technologie à la mode pour aller détecter des patterns dans une donnée qui était généralement structurée. Les paiements, l'identité des gens sont des données qui sont très structurées. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes attributs qui représentent un virement. Un virement, il a un montant, il a une date, il a une heure. Aujourd'hui, l'IA générative, ce qui est très intéressant, c'est que ça absorbe très bien de la donnée non structurée. Un site web, tout le contenu texte qu'on a pu émettre, nous, sur les réseaux sociaux. Et là, c'est très intéressant pour aller demander à ces agents-là d'aller analyser cette donnée-là. Et ils sont assez pertinents. Aujourd'hui, on expérimente encore beaucoup dessus, mais on a de très bons résultats déjà.
L'impact de la réglementation, il est important là dans... Enfin, il est évidemment présent, mais est-ce que la réglementation est suffisamment forte? Est-ce qu'il faudrait changer des choses, Brice Perdry?
Alors, la réglementation, c'est vrai qu'en Europe, on a vraiment une réglementation pro-consumériste. Hein, c'est vraiment, on va dans le sens de protéger les consommateurs. Mmh. Et donc, l'Europe impose aux banques une suite de réglementations. On a eu la DSP2, la DSP3 qui est en cours de finalisation. Donc ça, c'est vraiment des réglementations qui vont dans le sens de forcer les banques à investir encore plus dans la protection des
consommateurs.
Vous
dites protéger le consommateur, mais en même temps, faut pas, comment dirais-je, léser l'utilisateur. Quoi. Exactement, il ne faut pas lui mettre... Il aura 6 codes de vérification. question, voilà, ça serait super, hein, mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment, on aura
donc, c'est vrai qu'avec la DSP2, ben, on a vu arriver les fameux codes, vous l'avez tous, tout ça, voilà, les fameux SMS d'authentification forte. Nous, au-dessus, avec l'analyse comportementale, on va réussir à mitiger ben, l'expérience utilisateur. Si on a une très forte confiance sur le fait que ce soit bien la bonne personne, on va pas le gêner, on va pas lui demander son code d'authentification forte. Par contre, sur des cas où c'est assez suspicieux, là, on va vraiment insister sur cette partie-là. Cette réglementation, bah, elle a quand même, sur un grand nombre de cas de fraude, on en parlait, réussi à bloquer certains schémas de fraude assez basiques. Par contre, c'est vrai que ça a aussi bah, forcé les fraudeurs qui savaient plus quoi faire parce qu'ils étaient maintenant bloqués, à faire preuve d'inventivité, d'aller chercher qu'est-ce qui pouvait se faire avec l'IA générative, avec la création de faux sites de façon massive, et pour aussi eux-mêmes se professionnaliser et donc se déporter sur d'autres cas de fraude. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Et d'ailleurs, la DSP3, qui est en cours de discussion encore hein, au niveau des instances européennes, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle va. Elle va rajouter. Oui, exactement. C'est vraiment tout ce qui est. Parce qu'il y a notamment mis en place l'authentification forte des paiements, c'était la deuxième, la DSP2. Et donc là, avec la DSP3, on va justement rajouter toutes ces notions d'environnemental, etc. On va demander aux banques de compléter leur dispositif, en fait. Hein, en allant dans le sens de ce que vous décriviez.
Si on parle de réglementation, je pense qu'on peut élargir le sujet aussi à toute la régulation financière. Oui. Donc on a des autorités dans tous les pays du monde et dans les associations d'État comme l'Union européenne qui viennent imposer aux établissements financiers tout un arsenal de mesures, notamment autour de la connaissance client et de la surveillance des flux. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que même si on arrive à totalement annihiler la fraude au paiement, il reste que les équipes anti-fraude et les équipes de conformité des banques grandissent tous les jours. Et aujourd'hui, on s'équipe de plus en plus parce que les banques, les sociétés de paiement ont de plus en plus de pression de la part des autorités pour mieux connaître leurs clients, pour mieux suivre les flux à des fins, encore une fois, de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Et donc ça vient mettre une pression importante sur les équipes. Donc il y a tout un enjeu aussi aujourd'hui d'être capable de répondre à ces attentes-là des autorités.
Et répondre donc à la réglementation, on en a parlé, la prévention de la fraude, voilà, mais tout ça, ça ne doit pas nuire à l'expérience utilisateur. Parce que je trouve que c'est toujours cette équipe qui vous trouvez
prise par c'est vrai que nous, de plus en plus, en fait, dans les équipes fraude avec lesquelles on travaille, ils ne parlent plus forcément de lutte contre la fraude, ils parlent de pilotage du risque. Voilà. L'idée, c'est de piloter l'expérience du client avec sa banque par le risque et d'être capable, en fait, au vu du risque de fraude, du risque de blanchiment, de financement du terrorisme, adapter l'expérience du client par rapport au vu de ce risque. Et donc, sur des personnes qui vont être des cas à risque, on va peut-être complexifier les parcours clients, on va peut-être pas leur proposer tous les services qu'on a dans le portefeuille de la banque. Et sur des clients qui nous sont tout à fait sains, leur proposer des paiements extrêmement fluides. Donc, aujourd'hui, on n'est plus uniquement sur arrêter des fraudeurs, on est aussi sur piloter l'expérience du client et permettre au client de garder une confiance envers sa banque sur le fait qu'elle est en train tout de même de
oui, que ce qu'elle fait, c'est pour lui, c'est pour surveiller ses comptes et tout ça, alors dites-la.
Nous, on le voit avec tous nos partenaires commerçants, clairement, la fluidité du paiement, c'est devenu un élément clé et majeur de l'expérience de leurs clients.
Oui. C'est le point de friction, d'habitude.
Exactement.
On a tout choisi, on a son panier, et puis c'est là où...
Exactement. Et on sait qu'un client qui a été, pour le coup, bloqué à tort, parce que c'est le risque, quand on met en place des mécanismes anti-fraude, c'est de bloquer les bons clients. Donc il y a tout un équilibre à trouver. Il y en a un sur trois qui ne reviendront pas.
Je vous arrête un instant, mais maintenant, en plus, on peut payer en plusieurs fois. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses.
Tout à fait. Et c'est effectivement. Et donc, c'est autant de moyens de paiement qui sont plus complexes, qu'il faut du coup aussi, pour lesquels il faut mettre en place des mécanismes de défense qui sont à chaque fois adaptés aussi, ne limitant pas l'expérience client. Et l'enjeu vraiment des commerçants avec qui on travaille, c'est comment j'augmente ce qu'ils appellent le frictionless, c'est-à-dire le parcours sans authentification par SMS, etc. Et c'est leur enjeu majeur à chaque fois qu'on discute avec eux.
Question à tous les trois, je démarre avec Florent. Les petites, moyennes entreprises, elles ont les moyens aujourd'hui d'accéder à ces technologies pour se protéger?
Bien sûr, aujourd'hui les commerçants s'équipent donc de moyens de paiement et ces solutions de paiement viennent généralement s'équiper avec des solutions comme les nôtres et nous on recommande Là, je me permets de recommander à tous les commerçants de bien analyser les solutions de paiement qu'ils mettent en place et de s'assurer que le coût de la lutte anti-blanchiment ou de la lutte contre la fraude ne retombe pas sur eux. Mm-hmm. Parce que le risque pour eux, c'est que pour lutter contre la fraude ou le blanchiment, on va effectivement demander plein d'informations à l'utilisateur final, à l'acheteur. Et ça, il ne faut pas que eux, ils en pâtissent avec une expérience client qui soit friction-full, du coup.
Oui, tout à fait.
Pour les plus petites entreprises.
C'est vrai que pour les petites entreprises. Les
financements, tout ça. Enfin, voilà,
il y a un coût à s'équiper, hein, quand même, de solutions à la pointe.
Mais il faut
sur la fraude. Souvent, il y a des effets de seuil. Je pense que toute petite entreprise peut se faire proposer des solutions par son PSP, par différentes, son écosystème de services. Forcément, ça ne va pas être des solutions à l'état de l'art, mais ça, c'est déjà un premier pas. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que de toute façon, le paiement, in fine, passera à travers des systèmes bancaires qui, eux, utilisent des solutions à l'état de l'art, avec ensuite cet enjeu de, en cas de fraude, qui paye la fraude. Voilà, donc, et enfin, le dernier point, c'est qu'il n'y a pas de taille, par contre, pour se former et faire de la prévention. Ouais. Voilà. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est vous êtes indépendant ou dans une multinationale, se faire former à qu'est-ce qu'une fraude au président, qu'est-ce qu'un phishing, comment les détecter.
Ouais,
c'est des choses qui aujourd'hui, c'est quand même massivement disponible sur Internet et avec plein de sociétés qui font ça très bien. Et
Laure Leclerc, une bonne pratique là quand on est pris dans un incident de fraude
en tant que
entreprise,
en tant qu'entreprise.
Oui, pas en tant que...
La base, c'est vraiment de tout de suite identifier l'incident, de bloquer les transactions si on arrive à identifier les transactions, vraiment tout de suite les bloquer et identifier s'il y a un réseau derrière. Parce que le problème, c'est que s'il y a un réseau, ils ont trouvé la porte d'entrée et derrière, enfin, par les réseaux, par les messageries, etc., ça va, tout le monde va s'engouffrer et ça peut monter très très vite. Donc c'est vraiment tout de suite identifier s'il y a un réseau et le bloquer.
Ça, c'est du côté du commerçant, mais je pense que du côté de l'institution financière, il y a cette approche par les risques aussi dont parlait Brice à l'instant, qui est très importante. C'est-à-dire que nous, dans notre industrie, plus spécifiquement vraiment sur le blanchiment d'argent, en cas de soupçon de blanchiment d'argent, la conduite recommandée, c'est pas tout forcément d'intervenir immédiatement, mais par contre de faire une déclaration de soupçon auprès des agences de renseignement financière françaises.
Et ça, c'est TRACFIN derrière, évidemment.
Exactement. Et ces agences-là, aujourd'hui, reçoivent des montants de plus en plus importants de déclarations de soupçon. Je crois que cette année, TRACFIN a reçu 200 000 déclarations de soupçons. C'est plus 15% par rapport à l'année dernière, ce qui montre bien que le blanchiment est un problème aussi de plus en plus important pour ces...
Eh bien, merci d'être à tous les trois, d'être venus nous parler de tout ça. Voilà, je trouvais que c'était important en ce moment de lutte contre la fraude au paiement. Merci Florent Robert, donc cofondateur d'Ondors. Vous aviez levé, c'était l'hiver dernier, hein, un peu moins de 4 millions d'euros.
Au total, on a levé un peu plus de 5 millions d'euros qui sont venus en deux fois. Et voilà,
et ça avance bien. Brice Perdrix, donc président d'Advancing. Vous êtes combien de personnes chez Advancing?
On va être plus de 80 personnes maintenant. Ouais.
Et puis depuis 35 ans, hein, dans la
35
recherche.
35 ans, ouais, dans la recherche.
Et merci à vous. Et Laure Leclerc, présidente de Honetrust, donc filiale du groupe Honet. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé un peu ces sujets. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'on va se retrouver, on sera à Vivatech, j'en suis même certain. Donc on aura l'occasion de revenir sur les sujets d'IA, justement. Donc d'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.